cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 1er octobre 1993, la substance.
Parce que pour lui, peut-être même une métaphysique, comme nous aurons l'occasion de le voir, qui commence par l'idée d'être. Alors la réaction de Heidegger est très intéressante, parce qu'il montre que toute philosophie qui commence par l'idée d'être est condamnée à ne jamais connaître l'être. Puisqu'on connaît l'être réel en fonction de l'idée d'être. Et c'est pour ça que pour lui, il n'y a pas de concept d'être. Concept d'être est rejeté. Et il y a la question sur l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc un jugement, mais pas d'idée, pas de concept. Pour lui, l'ontologie fondamentale, c'est la recherche radicale de l'être en opposition avec les étants. Les étants, c'est ce que les sciences étudient. Et l'être est réservé à l'ontologie fondamentale. Je n'en dis pas plus. Viendra de temps en temps à Heidegger, parce que c'est pour nous, je crois, notre Platon. Comme Aristote se situe par rapport à Platon, Heidegger a eu ce très grand mérite, il faut le reconnaître, de lutter ardemment contre la métaphysique scolastique. Par l'idée d'être. Et ça, c'est ancien. C'est depuis Suarez. Donc, disons philosophie première. Et ne vous mettez pas en colère si on dit métaphysique. C'est le petit nom familier chez les thomistes. Mais dès que vous êtes en dehors de la famille thomiste et que vous êtes dans le grand monde sans bon art, dites philosophie première. Vous voyez, comme ça, il faut vous connaître. Il y a des petits noms et puis il y a des noms en majuscules officiels. Alors, comment est née la métaphysique, la philosophie première? Le père de la philosophie première, c'est Aristote. Historiquement, c'est comme ça. Que vous soyez aristotélicien ou pas aristotélicien, vous êtes obligé de reconnaître que le père de la philosophie première, c'est Aristote. Pourquoi ? Parce que Platon, lui, met au-dessus de l'être là est le bien. Platon est le premier philosophe grec qui fait une grande synthèse philosophique. C'est pour ça que je ne vous demande pas dialogues de Platon. Ça se dit très facilement. Quand vous êtes fatigué, voyez, ayez du Platon. Quand vous êtes en pleine forme, ayez d'Aristote. Mais c'est bon d'avoir les deux. Pour les anciens. Parce que avant Platon, il y en a un que Heidegger a mis en pleine lumière, Parménide. Pour Heidegger, le premier philosophe de l'être, c'est Parménide. Vous verrez tout ça en philosophie grecque. Et Parménide, il nous reste le poème de Parménide. Et je crois que le poème de Parménide est une... C'est un poème. C'est très grand. C'est très beau. C'est primitif. Mais ça nous fait entrer dans ce grand élan de la philosophie de l'être. C'est le premier qui parle de la philosophie de l'être. Parménide, je crois, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vraiment... Ça n'inspirait Parménide. À ce point de vue-là, Parménide et Platon sont des philosophes de l'inspiration. Donc, ils sont toujours un peu poètes, vous voyez. Des philosophes de l'intuition, je dirais, aujourd'hui. C'est pas des philosophes de l'expérience. Pourquoi ? Parce que pour Platon, l'âme est unie au corps. Pour se purifier, c'est parce que l'âme a été trop loin dans sa recherche personnelle. Elle est tombée dans l'orgueil. Alors, les dieux purifient l'âme humaine en l'obligeant d'être unie au corps. Et le corps, pour Platon, Platon est le premier philosophe du corps, mais très négativement. Le corps, c'est la pierre tombale qui met l'âme dans le sépulcre. Et donc nous sommes des sépulcres vivants, pas blanchis, mais vivants. Et notre corps enferme notre âme dans une prison. Et c'est pour cela que tout l'effort du philosophe, c'est de nous rappeler la réminiscence, de nous rappeler l'état premier de notre âme. Nous étions des contemplatifs. Le dialogue du Phèdre montre ça admirablement. C'est un très beau dialogue. Mais c'est pas... On divise Platon, je veux pas faire un cours sur Platon, mais c'est quand même très important de connaître Platon. Platon ne forme pas. C'est pour ça qu'on le prend quand on est fatigué. Platon ne forme, mais il nous ravit. Et comparativement à la philosophie moderne, c'est quand même quelqu'un qui cherche la vérité. Il essaie. Mais il est, j'allais dire, trop poète, je crois, pour entrer vraiment en philosophie première. Et c'est pour ça que pour lui, au-delà de l'être, il y a l'un et le bien. Donc c'est le philosophe de l'un et du bien. Or, on va voir que l'un, c'est la propriété de l'être. Alors, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que il n'a pas dépassé l'un et le bien. L'un et le bien, ça séduit complètement Platon. Platon, c'est le philosophe de l'âme. connais le temps, parce que j'ai beaucoup enseigné Platon à Fribourg. C'est une des matières que je devais enseigner. Et j'avoue que j'aimais toujours beaucoup d'enseigner Platon. C'est très séduisant. Platon a été, vous le savez, l'élève de Socrate, le disciple de Socrate, le disciple, l'ami de Socrate, pendant 8 ans. Platon avait un atavisme politique, 2 oncles qui étaient dans la politique, et puis des grands-parents qui étaient des empereurs et des tyrans. Dans le sens grec, c'est-à-dire des empereurs, des rois. Il avait du sang royal dans les veines, Platon. Et il attirait, comme toutes les aristoïes grecques, attirait vers le gouvernement. Et Socrate a été là pour le retirer de cette attraction politique et lui dire qu'il fallait chercher la vérité. À ce moment-là, Platon, c'est extrêmement intéressant de voir ce que ça représente comme homme très enraciné dans toute une tradition et la rencontre avec Socrate qui était fulgurante. Et évidemment, pour Platon, c'est quand même quelque chose de grand d'avoir, je veux dire, pour Socrate, c'est quelque chose de grand d'avoir eu comme disciple Platon. Grâce à Platon, on connaît Socrate, puisque Socrate n'a rien écrit. Alors on pourrait dire, vous voyez, que Socrate, c'est le grand-père de l'éthique. Et Parménide, grand-père de la métaphysique. Ça, c'est vrai, Parménide, grand-père de la métaphysique. Socrate, grand-père de l'éthique. Connais-toi toi-même et connais les dieux. C'est Socrate, et c'est un homme intérieur. C'est l'intériorité, Socrate. Il a peur de la politique parce que on glisse vers la rhétorique de son temps. C'était les sophistes qui, par la rhétorique, les jeunes en leur montrant que grâce à la rhétorique ils pouvaient séduire, persuader, et en séduisant et en persuadant ils pouvaient les mener à être au pouvoir, puisque ça a commencé le point de vue de la démocratie. La démocratie est liée à la rhétorique, on en sait quelque chose. On n'a qu'à regarder les élections. Les élections, c'est vraiment un concours de discours pour séduire, avec des programmes qu'on ne tient jamais. Et on les donne aux voitures rhétoriques. Mitterrand, quand il était catholique et chrétien, il a été le premier dans le concours de la DRAC. Et la DRAC, c'était le concours des jeunes, au point du discours chrétien et catholique. Il a été premier. Et c'est pour ça qu'il est resté lié à cette rhétorique. Et une fois qu'on est lié à la rhétorique, on n'en sort plus. On ne peut plus en sortir. C'est tellement agréable de séduire les gens. Et c'est tellement grand de voir que tout un peuple vous proclame grâce à la rhétorique. C'est intéressant, vous voyez, de voir la naissance de la rhétorique au point de vue politique. Parce que ça colle. Et on voit que ça colle bien. C'est pas un phénomène français, c'est un phénomène grec. Et la rhétorique, du reste, plus importante, mieux faite, plus intelligente que la rhétorique d'aujourd'hui. Je ne sais pas si Mitterrand aurait passé un examen devant Platon, s'il lui aurait donné le premier prix de rhétorique, ça, je ne sais pas. Je vous laisse le juge là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Socrate est anti-rhéteur. Frédéric. Et il prenait tous les jeunes qui avaient un peu d'ambition, tous les aristoïdes, il les prenait en vue d'avoir le pouvoir. Socrate lutte contre eux. Platon lutte contre eux. Aristote lutte contre eux. Les trois qui ont lutté contre les sophistes, c'est Socrate. Alors Socrate, immédiatement, celui qui lutte avec le plus d'ardeur, et il arrache Platon aux sophistes. Les sophistes ne devaient pas aimer du tout Socrate. Ça, faut bien voir ce que c'est que les sophistes. Alors, ce qui est très significatif, c'est qu'aujourd'hui, les bons historiens de la philosophie grecque exaltent les sophistes parce que pour eux, c'est le premier moment de la subjectivité. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est le premier moment de la subjectivité. Et c'est vrai que la poésie et la rhétorique, la rhétorique comme art, c'est la subjectivité transcendantale. Mais si Kant parle d'une subjectivité transcendantale, c'est en raison des rhéteurs et des poètes. Et il n'y a rien de moins poète que rhéteur que Kant. C'est très curieux. Et c'est intéressant à voir ces parentés d'esprit. C'est ça que la philosophie grecque nous donne. La philosophie grecque, c'est la source pour nous. Et il est intéressant de voir dans la philosophie grecque comment on est en présence de plusieurs formes de philosophie. Une philosophie qui commence par l'inspiration. Très net, Parménide, Platon. Ça commence par l'inspiration. Une philosophie qui s'identifie à la rhétorique, les sophistes. Une philosophie de l'intériorité, Socrate. C'est une philosophie d'intériorité. Connais-toi toi-même. Et toute la philosophie, c'est se connaître. Et la philosophie, c'est de bien vivre. C'est de vivre honnêtement, de ne pas se laisser séduire. Et une philosophie de l'expérience, Aristote. Vous voyez, vous avez là quelques types de philosophie dont on sait si le point de départ, c'est ça qui est toujours intéressant. Il faut regarder la source pour voir l'orientation. Et Aristote dit, en fonction de cela, une phrase extrêmement intéressante. Toute erreur au point de départ, toute déviation au point de départ, a d'immenses conséquences dans la suite. Alors, un exemple qui illustre ça, que les Suisses connaissent bien, la source du Rhône et la source du Rhin. C'est tout proche. C'est pas loin. Et c'est à la naissance de deux fleuves tout à fait différents. Quand on descend le Rhône et quand on descend le Rhin, c'est pas la même chose du tout. Et alors c'est une image pour voir que de fait, si vous commencez la philosophie par l'intuition, ou si vous commencez la philosophie par l'expérience. On verra Maritain dire qu'il faut avoir l'intuition de l'être pour faire de la philosophie première, la métaphysique. Et un aristotélicien dira non, c'est l'expérience. Et ça fait deux points de départ totalement différents. Commençant par l'intuition, vous resterez prisonnier de la forme. Toute intuition porte l'expérience et vous verrez. Tandis que l'intuition, je ne veux pas dire ayez l'intuition. Ayez l'intuition de l'être. Si ça existe. Mais ça n'a pas d'importance. Au point de vue intuition, ça n'a pas besoin d'exister. Parce que le prof de l'intuition, c'est de porter sur une relation. Si ça porte sur une relation, ça peut très bien ne pas exister. Puisque c'est le propre de la forme relation d'exister et de ne pas exister. La seule chose que je peux créer, c'est une relation. L'homme crée des relations. Et on sait très bien que c'est le propre de certains génies de pouvoir être des hommes de relations. Ah, cet homme est un homme de relations et de communication. C'est juste un versus solitaire. Mais sur la carte de visite, on met toutes ces relations. Et sur les annonces d'enterrement. Et toutes les décorations analogues aux relations. Alors on a envie de mettre la parole du psaume en dessous. Qu'est-ce que ça signifie pour le ciel ? C'est très curieux de voir ça, parce que c'est intéressant, c'est le gros problème d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent que de relations. Absolument. Il n'y a plus de substance. Et donc il n'y a plus de personne. Ils sont intelligents devant tel homme et bêtes devant quelqu'un qui pense. Parce qu'ils n'ont pas de structure. Ils n'ont pas de pensée réelle et personnelle. Ils vivent de relations. Alors, voyez, ce point de départ grec, c'est très important de voir ce point de départ grec, ce fondement grec. Héraclite et Parménide. Héraclite, il nous tient à cœur, puisque c'est Héraclite d'Éphèse. Alors, Héraclite d'Éphèse, Parménide d'Élée. Un peu le sens de la géographie, vous voyez que c'est deux aspects tout à fait différents. Éphèse, Asie mineure, et les la pointe de l'Italie. C'est pas la Grèce continentale, c'est les rayonnements. Et vous avez d'une part Héraclite, le philosophe de l'expérience. C'est le grand-père d'Aristote, philosophe de l'expérience, qui découvre le logos. C'est le premier qui a parlé du logos. Qui découvre l'importance du feu. Le feu visible et le feu invisible. C'est un très grand bonhomme, Héraclite. Un peu brouillon. Parce que c'est un grand bonhomme. Un peu brouillon. Un peu obscur. Héraclite l'obscur, c'est tout à fait ça, Héraclite. Et Parménide, c'est le lumineux, pas étonnant. Si on habite à la Sicile, bon, c'est très lumineux. Et c'est l'homme de l'intuition. C'est curieux, c'est deux points de départ de la philosophie. Alors, toute une série philosophes différents. Et la philosophie, quand on va pas très loin, engendre le scepticisme. Pourquoi ? Parce qu'on voit une très grande différence d'opinion. Et alors, en raison de cette très grande différence d'opinion, les sophistes, l'importance est le lieu des sophistes. C'est la ville. C'est le centre. Enfin, ces sophistes, brutalement, un Socrate, qui rappelle l'exigence de l'éthique, grand-père de l'éthique. Et vous pouvez situer tous les grands-pères. Socrate va lui donner naissance à Platon. Les premiers dialogues de Platon sont socratiques. Platon a été très marqué. Donc ça lui a été un traumatisme très violent qui, au point de vue psychanalytique, explique toute sa philosophie. Le drame de Platon, c'est la mort de Socrate. La mort de Socrate qui prend la ciguë pour respecter les lois. Alors que Socrate était un homme d'une indépendance folle. Ah oui, alors là, lui, l'inculturation est magnifique chez Socrate. C'est l'homme qui est libre. Il y a dû avoir une conversion de Socrate. Socrate a dû être au point de départ, séduit par les sophistes. Parce qu'on montre, Aristophane montre un Socrate rêveur, sophiste. Il s'est converti par l'aspect militaire pour former l'homme. Et alors, on a Xénophon qui montre Socrate, officier, merveilleux, beaucoup de courage. Et puis le vrai Socrate, il y a trois Socrates, puisqu'il n'a pas écrit, il n'y a pas de biographie de Socrate. Il y a trois miroirs. Premier miroir, c'est les comiques qui ridiculisent Socrate. Puis, second miroir, Xénophon. Socrate militaire. Puis, troisième, Platon. Socrate penseur. Ça. Par le fait même, suscite de terribles jalousies. Parce que la jeunesse vient vers lui. Socrate découvre quelque chose de profond. Alors vous avez ensuite Platon et Aristote. Platon lit à Parménide. Ça, très nettement. Vous avez un dialogue sur Parménide dans Platon. Alors là, ça ne se lit pas en dilettante. Hein. Dialogue avec Parménide montre le sérieux de Platon et qui peut de temps en temps faire quelque chose d'extrêmement serré. Parce que la dialectique naît avec Platon. Et pour donner à la dialectique tout son prestige, il montre que c'est Parménide qui l'a inventé, alors que c'est Platon. Mais ça, c'était le respect des anciens chez les Grecs. Pour être valable, pour être reconnu, il fallait prendre l'habit de l'arrière-grand-père. On se revêtait de la doctrine du grand-père. Et Platon se revêt au moment où il critiquait, où il fait une autocritique. Il se revêt du manteau. Et le dialogue du Parménide à ce point de vue-là est extrêmement intéressant parce que c'est Platon qui se fait sa propre critique. Critique de son inspiration, critique de la réminiscence, puisque pour lui la première source de la pensée c'est la réminiscence. Et vous voyez, on voit très bien la réminiscence chez les psychanalystes aujourd'hui qui veulent que vous remontiez à la première source. Quand vous étiez dans le sein maternel, vous avez écouté une musique. Et dans le sein maternel, ayant écouté cette musique, tout s'est formé à l'intérieur de cette musique. Et donc, il y a des déviations. Il faut remonter à la source. Et la source première, c'est cela. C'est pour rappeler plus. moi, la réminiscence de Platon a un peu plus de dignité que la réminiscence des psychanalystes. Parce que pour Platon, la réminiscence, c'est notre vie contemplative. Tandis que pour eux, la réminiscence, c'est la musique première. Et là, vous voyez toute la différence entre la psychanalyse et Platon. J'aime mieux Platon. Il y a une noblesse chez Platon qui est très grande, qui est très belle. Et c'est imaginatif. C'est imaginatif. C'est ça. Ça ne tient pas la route. Alors, le chef-d'œuvre de Platon, c'est la République. C'est la première grande politique. Sur Platon, c'est fin. Et c'est extraordinaire de voir comment Platon progressivement réintroduit la sensation dans sa philosophie, l'expérience. Parce qu'au fond, Platon s'est bien aperçu, et je crois qu'Aristote a joué un rôle important. Faut pas oublier que dans le Parménide, il y a le jeune Aristote. Alors évidemment, on dit que ce jeune Aristote, ce n'est pas Aristote. marxiste aime Aristote. Et le lien avec les marxistes, c'est Aristote. Pour nous. Mais évidemment, une interprétation d'Aristote qui est totalement différente de celle qu'on donne. Mais il y a un lieu commun. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça. Mais la grosse différence, c'est que les marxistes, c'est la dialectique. Et Aristote, c'est l'analogie. Aristote découvre ce qu'est l'analogie. Et c'est pour ça qu'il peut passer du visible à l'invisible. Par l'épagogé, c'est-à-dire par l'induction. Ça, nous aurons l'occasion de le voir. Pour Aristote, il n'y a pas d'idée innée. Il n'y a pas de forme idéale. C'est par l'expérience que je progresse. Une attention tout à fait particulière à l'expérience. Parce qu'on peut très bien toucher des quantités de choses sans y penser. Platon, pour Aristote, est un somnambule. Il ne touche pas à la réalité. Il ne la touche pas. C'est pour ça qu'Aristote est le philosophe du toucher, de l'expérience. Tandis que Platon, c'est le philosophe de la vue, la vision, l'intuition. Et ce n'est pas corrigé par le toucher. Là, il y a des perspectives très importantes pour nous. Hein. Alors, Aristote, philosophe de l'expérience, avec une très grande exigence de l'expérience, commence sa philosophie par l'expérience humaine. Là, il est très proche de Socrate. Il le dira dans l'éthique qu'il est plus proche de Socrate que Platon. Il aime Socrate, Aristote. Mais il n'a pas le traumatisme de Socrate. Traumatisme de la mort de Socrate. De la séparation. Et ce cheminement d'expérience va le conduire à la philosophie première. C'est très difficile de retrouver le cheminement d'Aristote. Il y en a un, ça c'est sûr, puisqu'il est docile à l'expérience. Aristote est le père de la logique. Alors ça aussi c'est très important. Il est le premier qui sépare. La dialectique, c'est pas ce qui est né de l'intelligence et le fondement d'un réel. Et c'est pour ça qu'il inventera la logique pour montrer ce que l'intelligence humaine est capable de créer. Connais quelque chose, ce quelque chose est transposé en moi. Autrement dit, pour Aristote, toute connaissance humaine implique une certaine transformation du réel. Ce qui est connu n'est pas adéquat au réel. Mais cependant, ce qui est connu est fondé dans le réel. Alors que pour Platon, la dialectique est adéquate au réel. Vous voyez, pour un savant, sa connaissance qu'il a comme savant représente la réalité. Alors que la connaissance scientifique implique une abstraction et donc une déformation. Vous allez tout de suite comprendre. Ça, c'est capital et c'est intéressant de voir la différence là entre Platon et Aristote. Parce que ça se retrouve tout le temps. philosophe, l'homme, Pierre. Parce que c'est toujours Pierre qui vous regarde en premier lieu. Puisqu'il a l'autorité. Alors c'est ça qu'on regarde en premier lieu. Pierre est une réalité complexe.
Il y a des esprits qui sont platoniciens. Il y a des